Vous écoutez Parlons Psychanalyse, la revue numérique de la Société Psychanalytique de Paris. Nous écoutons Janine Altounian en conversation autour du génocide arménien et de sa transmission avec Louis Foissier de l'Association Psychanalytique de France.
Chère Janine Altounian, ce podcast ne pourra pas couvrir l'étendue et la profondeur de votre travail. Il a consisté d'une part en votre rencontre avec la psychanalyse, à transformer en vous-même les traces mortifères du génocide arménien, et par l'écriture, il a consisté à donner à vos mots la portée d'un récit et d'une recherche, qui éclaire d'ailleurs la pratique psychanalytique aujourd'hui. Et d'autre part, en tant que germaniste, il a consisté à traduire les œuvres complètes de Sigmund Freud. Alors, le but de cet enregistrement est de donner un aperçu le plus vivant possible de votre œuvre, qui puisse faire éprouver à l'auditeur la nécessité de vous lire. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages, et le dernier, intitulé « L'irrémédiable », vient de paraître en 2024. Par ailleurs, vous avez été élu membre d'honneur de l'Association psychanalytique de France. Janine, vous êtes née en 1934 à Paris, de parents arméniens. Ils étaient rescapés des innombrables crimes perpétrés par l'État ottoman à l'encontre des Arméniens, génocide que l'État turc actuel persiste à nier. Dans le deuxième arrondissement de Paris, vous grandissez entre le Sentier et les Halles, où, à l'époque, toutes les diasporas de l'Europe, d'Afrique, du Nord, d'Asie et des régions françaises se côtoient, se mêlent, s'ignorent, chacune travaillant à la survie de ses membres. Alors, vous êtes né entre les langues arméniennes, turques, françaises, et entre ces diasporas de votre quartier. Alors, quels furent les effets de cet environnement sur vous ?
Écoutez, d'abord, j'aime bien la façon dont vous me présentez, parce que vous entrez dans le vif du sujet. D'abord, vous avez joint ensemble la psychanalyse et l'écriture, et j'expliquerai en quoi, pour moi, les deux champs de pensée se sont rejoints pour dans l'élaboration du trauma. Juste deux petites indications. Je n'ai jamais été traductrice de Freud, mais co-traductrice. C'est important, ne serait-ce que par rapport à ce que vous dites concernant le diasporique. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler avec des collègues. D'abord, c'était des collègues pour la traduction, la retraduction des œuvres, et ensuite dans le comité éditorial dirigé par Jean Laplanche. L'autre petite indication que je voudrais dire, c'est que mon livre s'appelle non pas l'irrémédiable, mais face à l'irrémédiable. C'est-à-dire que quelque chose est irrémédiable, je dirais que malgré les années d'analyse, le fait qu'on est né de parents qui ont connu la persécution et l'exil est quelque chose qui s'est inscrit en nous et qu'on ne peut absolument pas déloger. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette affaire.
C'est important cette précision que vous donnez du titre, parce qu'il il ouvre la perspective qui est de faire face
à
l'irrémédiable.
C'est tout à fait ça.
Et pas de se contenter du constat de cette particularité.
C'est ça. Et d'ailleurs, dans un des chapitres de mon livre, il y a ce que j'ai appelé les stratégies du détour. C'est-à-dire que...
On en parlera.
Voilà.
On va en parler.
Le détour.
Bien. Alors, dans vos premières années, il y a eu cette rencontre, on pourrait dire magistrale pour vous, avec l'école. Vous avez justement vécu et analysé le rôle émancipateur de l'école laïque, républicaine, dont vous intégrez la maternelle à l'âge de 4 ans. Je vous cite. Vous écrivez « L'école représentait pour moi un refuge, une atmosphère respirable, à l'abri des souvenirs étouffants, des évocations furtives et esquivées de justesse qui hantaient la maison. Donc, c'est un abri, mais pas seulement. Mais l'école constitue un univers qui ne communique pas avec celui de la famille. Et je vous cite encore, L'enfant que j'étais se trouve situé au lieu même de cette traduction empêchée, de cet interstice opaque entre deux univers sans communication. Il est l'enfant d'une rencontre manquée. Il n'existe pas.
Oui, vous citez évidemment des passages clés de mon travail et de qui je suis. Je dois vraiment dire que l'école a toujours été pour moi un lieu pour se reconstituer à l'abri du traumatique qui était à la maison. Et aussi pour, grâce à l'école, parvenir un jour à dénoncer ce traumatique en l'écrivant. C'est-à-dire que l'école permettait la libération hors du traumatique, mais donnait les instruments de pensée, ce que Jean Laplanche appelle le code dans le préconscient, pour pouvoir ensuite parler de ce traumatique. Je pense, en ce qui me concerne, que l'école est une propédeutique au travail analytique, dans la mesure où il donne les instruments de pensée et de penser à sa propre condition. L'école que j'ai connue n'existe pratiquement plus, et pour moi c'est un grand événement catastrophique de notre société actuelle.
Bon, c'est peut-être pas irrémédiable.
Je ne sais pas, parce qu'il faut s'y prendre très tôt à l'avance.
Oui. Alors, traduire au milieu de toutes ces langues et de ces diasporas, ça a été pour vous une nécessité, quelque chose qui s'est imposé entre ces langues parlées à la maison, qui étaient dévalorisées, et le français dominant. Ça vous impose très jeune de créer des passages entre les langues. Et cela a sans doute joué un rôle dans le fait de devenir traductrice.
Oui, absolument. Alors, je dois dire que cette langue n'était pas dévalorisée. C'est-à-dire que mon existence à la maison, où on parlait, ma mère me parlait arménien et mes parents parlaient ensemble le turc, puisque les Arméniens de l'Empire ottoman, beaucoup d'entre eux étaient turcophones. Je dirais pas qu'elle était dévalorisée, mais elle ne me donnait absolument pas des instruments de parler aux autres, c'est-à-dire à ceux qui étaient en France, qui vivaient en France, et alors que mon souci, c'était de rendre visible mon histoire pour pouvoir l'élaborer. Pour pouvoir l'élaborer, il faut d'abord la traduire aux autres, dans la langue des autres, ce que donnait l'école. D'où l'histoire de la traduction pour moi, c'est-à-dire que j'ai dû sans doute... vous savez, le travail analytique fait qu'on comprend des choses qu'on a vécues, alors qu'au moment où on les vivait, on ne se rendait pas compte de leur valeur. J'ai rapidement compris qu'il fallait parler la langue des autres, c'est-à-dire la langue de la culture du pays où je vivais, qui m'avait été transmis par l'école, qu'il fallait parler la langue des autres pour essayer de dire d'où l'on venait. C'est-à-dire que je n'ai jamais été dans un conflit de loyauté. Je me sentais aussi bien française qu'arménienne. Il s'agissait d'être suffisamment française pour pouvoir dire son arménité. Et d'ailleurs, j'ai eu recours sans le savoir, j'ai dû vous le dire, à une stratégie bizarre. C'est qu'il m'est arrivé de passer par la littérature de la France, par exemple Montesquieu, dans mon premier article au temps moderne. J'ai parodié le « Comment peut-on être persan ?» en écrivant « Comment peut-on être arménien ?» De la même, dans mon premier livre, j'ai nommé mon premier livre de 1990, je crois, avec les paroles d'une reine qui apparaît dans une stratégie de Corneille, Nicomède, où la princesse Laodice dit à son prétendant « Je ne veux point régner dans votre Bithynie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie.
Oui, »
C'est-à-dire pour dire que ben voilà, l'Arménie, elle existe en France.
Mais votre lapsus est très intéressant.
Oui.
Vous avez dit « stratégie de Corneille ». Pour tragédie,
oui.
Mais c'est la réalité.
C'était ma stratégie à
C'était
moi.
C'était votre stratégie,
oui.
À vous.
Oui,
cette stratégie du détour.
Oui, c'est ça.
Que vous conceptualisez dans votre dernier livre. Faire face. Faire face à l'intraduisible. Parce qu'on parle des langues, du passage d'une langue à l'autre, de cette confusion des langues que vous avez connue. Mais l'intraduisible, c'est quelque chose qui persiste et qui menace sans relâche. Parce que les survivants, et c'est ça que vous nous avez appris, Jeannine, les survivants ne sont pas des vivants comme les autres. À ce titre, votre témoignage, comme celui d'autres survivants, est essentiel. Et je vous cite. « Ce que nos survivants exilés avaient vécu habitait clandestinement leur mémoire. Je vivais dans une atmosphère où se sentait la proximité d'un grand malheur auquel on avait certes échappé, mais qui parvenait jusqu'à moi et me tenait loin du temps et des climats rencontrés au dehors, à l'école. »
Alors, vous avez l'art de citer des passages caractéristiques. Et d'ailleurs, je dois dire que moi, je n'aime pas écrire. J'expliquerai pourquoi. Mais quand quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'autre, me cite, je me dis « Ah, elle a vraiment su dire ce qu'il fallait. Moi, j'y serais pas arrivée. » Bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis née en 1934. À Paris. Mon père avait 14 ans au moment, en 1915, et ma mère 5 ans. Donc, il ne parlait pas de ses horreurs. Simplement, je sentais cette chose que j'arrive à traduire dans le passage que vous avez lu. Et je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est dans le transfert dans l'analyse, qu'on comprend ce qu'on avait vécu, parce qu'on l'a vécu sans comprendre ce qu'on vivait. Et je me dis en gros que ça revient à dire, dans le fond, c'est pas évident d'être en vie. C'est ça qu'on vit. C'est-à-dire que il s'est passé une telle menace sur les ascendants, dont certains sont morts, évidemment, massacrés, que, ben oui, on est vivant, mais en fait, ça va pas de soi. D'une certaine façon. Parce que mes parents ne parlaient pas de ça. La seule chose qui émanait de leur présence, c'est surtout de la part de ma mère, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour sortir de là. C'est-à-dire une obligation et exactement l'inverse de ce dont un enfant a besoin. C'est-à-dire qu'on lui transmette la joie de vivre. C'est-à-dire la pulsion de vie est quand même très endommagée par le « il faut ».
Oui. Mais d'ailleurs, sur le travail, vous le relevez dans le manuscrit de votre père.
Ah oui. Ah oui.
Où la question du travail est un axe, un viatique, un axe de sauvegarde de leur personnalité, de leur identité. C'est par le travail qu'ils vont survivre, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire lutter contre l'angoisse. Lutter contre l'angoisse, et je pense que ma mère travaillait tout le temps pour cette raison. Alors que apparemment c'était pour se sortir de là, mais c'est parce qu'en travaillant, l'angoisse s'en va. Et ce qui m'a frappée, parce que le texte de déportation de mon père, quand je l'ai découvert, j'en parlerai évidemment tout à l'heure, je me suis rendu compte, mais dans le fond, que ce qu'il contenait d'injonctions, par exemple, ce que disait le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père, que je n'ai pas connu puisqu'il a été massacré, et je ne sais pas où il est enterré, où il n'a pas été enterré, en gros. Eh bien, il faut travailler. Donc, dans le fond, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je fais depuis longtemps. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Et ce n'est pas une constatation sympathique. J'aurais préféré vivre autrement, mais c'était comme ça.
J'ai évoqué à l'instant cette violence qu'on a l'impossibilité de se représenter. Et c'est toujours la violence, une tentative d'abolir le tiers. Cette fonction paradigmatique de notre humanité. Le génocide, lui, porte la violence à son paroxysme et réalise l'anéantissement du tiers.
Il
a beaucoup de mal à se représenter ça. Effacement des êtres, de leur sépulture, même les morts n'existent plus. Effacement des lieux, des biens, des identités, des langues. Alors, comment ne pas suffoquer sous le poids d'un tel héritage? Pour trouver de l'air, tenter de surmonter cet anéantissement, en 68, vous rencontrez la psychanalyse et vous entamez une cure. Est-ce qu'une traduction commence?
Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que le travail analytique m'a permis de me rendre compte que je venais du quelque part. Et ce quelque part m'a été révélé lorsque j'ai pu lire, après l'avoir fait traduire, le texte de déportation de mon père. C'était un récit qui m'a d'abord effondrée. J'ai pu lire ce texte en 1978 et donc j'ai voulu, à ce moment-là, j'avais terminé une première analyse où je me sentais bien, et la lecture de ce texte m'a effondrée et j'ai entamé une seconde analyse. Et j'ai ensuite constamment travaillé ce texte en le citant comme je cite d'autres auteurs. Et c'est ce travail conjugué entre le travail du transfert dans l'analyse et la traduction dans le monde des autres de ce que je vivais dans l'écriture qui m'a fait comprendre des tas de choses de ce texte de mon père. Par exemple, « Il faut travailler du grand-père », je me suis dit « ben oui ». Dans le fond, ça s'est poursuivi jusqu'à moi. Un autre exemple, c'est que, à un moment donné, parce que j'ai dit que ce grand-père avait été mis à mort, mais on ne savait pas où il était enterré, c'est que dans le récit de mon père, sa mère, c'est-à-dire une grand-mère que je n'ai pas connue, elle est morte avant le mariage de mes parents, est menacée, il faut qu'elle continue la marche de la déportation qui mène vers la mort, et elle dit nous partirons quand nous aurons enterré le mort. Et évidemment, quand elle dit ça, elle risque d'être violée, d'être massacrée à son tour, de que ses enfants soient également massacrés, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que la tradition veut qu'un mort, on l'enterre. Et un jour, il m'est venu à l'idée, donc c'est pas par hasard, je crois que c'est le travail analytique qui favorise ces jonctions de pensée. Je me suis dit, mais dans le fond, mon père a pu écrire ce texte parce que sa mère avait enterré son propre père. C'est-à-dire que dans les deux opérations, il y a une tentative d'inscrire l'innommable. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la filiation, parce que mon père dit toujours, ce jeune garçon de 14 ans qui écrit quand il a 19 ans, « Ma mère a réfléchi, ma mère a réfléchi, et elle a dit, nous ne partirons que lorsque nous aurons enterré le mort.
Oui. » Alors que, vous le racontez, et votre père le raconte dans son manuscrit, beaucoup d'autres personnes, oui, qui étaient massacrées, oui, sur le chemin, oui, n'étaient pas enterrées.
Non, et les chacals disent
les chacals. Venaient les déchiqueter. Oui. Donc, enterrer son mari pour votre grand-mère, c'était un acte de résistance.
Oui, et je peux dire que d'une certaine façon, mon existence, je le dois à cet acte.
À cet acte de résistance.
Parce que malgré tout, il faut maintenir le sens, c'est ça. Ouais. Il faut maintenir le sens que donne la tradition, oui.
Ouais.
Et je fais une petite parenthèse. Je pense qu'actuellement, nous vivons des choses catastrophiques dans le monde. Et il m'arrive souvent de penser que le monde est en train de s'autodétruire, quelle que soit l'opinion politique qu'on peut avoir, et que la difficulté, c'est de pouvoir maintenir quand même le sens.
Votre rencontre avec la psychanalyse en tant qu'analysante, puis plus tard avec la théorie de la planche sur la traduction.
Oui.
C'est quelque chose qui va vous conduire à concevoir que traduire a une dimension et une visée anthropologique.
Oui, alors, quand j'ai rencontré le travail de Jean Laplanche, J'avais déjà été recrutée par Pierre Cottet, germaniste, et André Bourguignon, psychiatre et psychanalyste, à des traductions que nous faisions à Troyes et qui ont été publiées au PUF dans la collection Résultats et des problèmes. Mais lorsque la planche a voulu créer les œuvres complètes, c'est-à-dire en 1983, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré sa personne et ses théories de traduction. Et ce qui m'a frappé, c'est que d'emblée, alors que je ne connaissais pas ses textes sur la traduction ni ses textes psychanalytiques, j'ai été d'emblée d'accord avec ses choix de traduction. Parce qu'il était ce qu'on appelle, non pas cibliste, mais sourcier. Alors, pour dire rapidement, le sourcier traducteur est plus préoccupé de restituer la fidélité à la langue source, alors que le cibliste est plus préoccupé du fait que ça fonctionne bien dans la langue d'arrivée, c'est-à-dire en français. Alors, là aussi, on voit comment ce sont les motivations inconscientes qui régissent les choix de vie. J'ai été d'emblée séduite par cette affaire parce que j'adore l'allemand, alors comprendre pourquoi. Et l'allemand de Freud, ben voilà, c'est-à-dire que il y a quelque chose de tellement palpable dans ce qu'il dit que on peut pas se préoccuper essentiellement de ce que ça donne en français. Il faut restituer le plus près possible, de la façon la plus proche, la circulation des concepts et de voir comment les concepts viennent dans la langue. Donc, j'ai été d'emblée d'accord avec ces options de traduction, et je peux dire que essayer de dire son histoire, les Arméniens, c'est le génocide de 1915, mais c'est la même chose pour tout enfant de survivant d'une catastrophe, que ce soit la Shoah, le Rwanda, etc. Il faut pouvoir essayer de dire dans la langue de l'autre qui est d'abord fantasmé comme ne connaissant rien à ces affaires-là, c'est-à-dire de passer par une forme de rendre civilisé quelque chose qui n'est pas civilisé. Et puis, ben voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se rend compte que l'autre, finalement, a aussi dans son histoire des choses équivalentes. Par exemple, il a un grand-père mort ou défiguré à la guerre de 14, ou il a parfois une grand-mère qui vient de l'assistance publique. Le trauma n'est pas quelque chose de si rare. Et à ce moment-là, l'écriture, cette traduction, a une valeur thérapeutique. C'est-à-dire qu'au lieu de se vivre comme au bord du monde, on voit que non, qu'on peut fonctionner avec d'autres.
Justement, traduire, c'est rendu possible par le fait de lire, hein, mais de commenter, bien sûr, mais aussi d'écrire. Parce que vous avez lu le témoignage de votre père, puis des textes d'autres témoins, dont vous faites des commentaires qui sont extrêmement éclairants sur leur processus de pensée. Ça nous éclaire beaucoup, je trouve. Et cette rencontre avec l'écriture des autres va vous engager vous-même à écrire. La construction par l'écriture n'est pas de votre choix, vous me l'avez dit maintes fois et vous l'avez écrit. Mais ce fut une nécessité existentielle, entre contrainte et empêchement, comme vous y revenez d'ailleurs dans votre dernier ouvrage. L'écriture.
Oui, alors, il faut que je vous situe le moment où je me suis sentie obligée d'écrire. C'était donc, j'étais déjà dans le premier travail analytique, lorsque un livre d'historien est paru, qui s'appelait « Arménie 1915, un génocide exemplaire ». À l'époque, donc c'était en 1975, j'avais donc déjà commencé mon premier travail analytique, et je me suis dit, mais voilà, c'est dans ce livre, c'est ce livre-là qui me dit ce que je vivais à la maison. Parce que ce que je vivais à la maison n'avait pas de mots. C'est-à-dire que mes parents ne se plaignaient pas. Il y avait « il faut travailler ». Mais je sentais bien que c'était une vie qui n'était pas celle que je rencontrais chez mes camarades de classe. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai voulu écrire pour dire en quoi le livre d'un historien traduisait ce que moi je vivais à la maison. C'est-à-dire que j'avais besoin des mots de l'autre pour dire ce que je vivais à la maison.
Et ces mots de l'autre, comme vous dites, ils vous parviennent par des auteurs,
oui,
que vous affectionnez, chez lesquels vous trouvez des exemples et beaucoup de commentaires à faire, comme Camus, Annie Ernaux, et tant d'autres. Mais, et vous venez de citer ce livre publié dans les années 80.
Le livre d'historien, c'était en 1975.
Je voulais juste rebondir là-dessus. Parce que ce livre, il a été possible de l'éditer en France.
Ah oui.
Dans bien d'autres pays, il n'aurait pas pu être édité. Ce qui nous amène à évoquer quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est la qualité démocratique du pays d'accueil qui permet justement d'exhumer toute cette mémoire du génocide et de la publier. Et c'est que par ce détour qu'elle vous parvient.
Ah, tout à fait. Là, c'est une des dimensions fondamentales de mon écriture, qui apparaît d'ailleurs dans le sous-titre de mon dernier livre, « Conditions politiques d'un travail analytique ». C'est-à-dire que le rapport à l'institution, donc l'école, premièrement, je l'ai rencontré dans mon amour de l'école.
Et la langue.
Et la langue, évidemment, parce qu'elle donne l'instrument pour parler aux autres. Mais aussi de la façon suivante, c'est-à-dire quand j'ai eu besoin de traduire en quoi ce que je vivais à la maison, c'était le livre de l'historien qui me le disait, j'ai écrit un texte que j'ai présenté à une historienne d'origine arménienne, Anaïde Termination, c'est-à-dire que l'institution universitaire permettait à une historienne d'origine arménienne de parler du génocide arménien, de parler de la culture arménienne que j'ignorais et que je continue à ignorer partiellement parce que je n'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de ça. Mais c'est grâce à la France que j'ai pu publier ce texte, parce qu'elle m'a dit, c'est-à-dire grâce à l'institution française, parce qu'elle m'a dit, cette femme, elle m'a dit, mais oui, ce texte, c'est publié, c'est possible, envoyez-le au temps moderne. Alors moi, le temps moderne, je n'étais pas ni une intellectuelle, ni une universitaire, mais bon, voilà. Et elle a ajouté, alors c'est un côté piquant, vous devez être un peu féministe, écrivez une lettre à Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, j'ai donc écrit une lettre dont j'ai gardé le brouillon et je trouve que c'est formidable, j'ai bien écrit à Simone de Beauvoir. Donc, évidemment, l'institution française, elle est celle qui a permis mon écriture.
Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous tenez à la défendre.
Mais oui,
et à le faire savoir.
Mais oui.
Mais alors, je reviens à vous encore, et en général aux héritiers d'une telle histoire, les héritiers d'un génocide. Et vous dites, ils ne peuvent commencer à symboliser ce qu'ils en ont reçu en héritage au pays d'accueil qu'à la seconde ou troisième génération. Hein? Notamment lorsque la temporalité de la latence rend possible en eux la formation d'une enveloppe psychique. Enveloppe psychique dans laquelle peuvent être reçus les morts sans sépulture, et lorsque les héritiers, finalement, sont en mesure de penser, d'aimer sans crainte, de se voir engloutis avec eux.
Mais j'ai écrit tout ça, c'est formidable. Oui, évidemment, il faut un temps de latence et il faut un temps d'apprentissage. Et il faut un temps d'apprentissage, parce que pour sortir de cet engloutissement par la famille ghettoïsante, qui ne peut être que ghettoïsante, puisqu'elle est, elle est acharnée à survivre, il faut du temps. Et il faut du temps d'apprentissage. Alors c'est là que je défends le travail de tous les profs, puisque j'ai été prof d'allemand. C'est-à-dire, il faut apprendre la langue de l'autre, il faut apprendre la culture de l'autre. Et vous voyez, dans tous les commentaires que j'ai faits, je pense que le livre le plus intéressant, c'est le livre de Camus. Parce que Camus dit bien, en parlant, quand il fait la dédicace du premier homme, oui, à sa mère, « À toi qui ne pourras jamais me lire ». C'est déchirant, vous comprenez ? Parce que... mes parents, par exemple, trouvaient tout à fait bien que j'aille à l'école parce qu'il faut travailler. Mais en fait, leur problème, c'était pas ça. Il aurait fallu, pour eux, il fallait que je sois une bonne Arménienne, c'est-à-dire que je m'occupe bien de mes parents. Or, en fait, je me suis bien occupée de mes parents en accédant à la culture de l'autre, et c'était pas ça qu'ils voyaient.
Oui. À toi qui ne pourra jamais me lire, ah, la dédicace de Camus. Mais c'est presque quelque chose que vous avez pu vous adresser à vous-même. C'est-à-dire, je ne peux pas lire les traces qu'ont laissées ces événements atroces. Je ne peux pas les lire, j'ai besoin d'en passer par les autres. Mmh. Et notamment par l'écriture et les rencontres que vous faites et que vous relatez et qui sont essentielles dans le retour que vous avez de la manière dont vous êtes écouté, des lectures qui sont faites de vos ouvrages.
Vous savez, le fait, par exemple, que je rencontre quelqu'un comme vous, qui comprend si bien ce que j'ai écrit, c'est un des bonheurs de la vie. Parce qu'effectivement, mes parents ne comprenaient pas qui j'étais. Et d'ailleurs, ma préoccupation, ce n'était pas d'être comprise par eux. C'est-à-dire que je tiens sans doute mon désir de rencontrer les autres par quelque chose que j'ai senti en lisant le texte de déportation de mon père. Parce que mon père était un personnage très distant, pas rejetant, mais ne se préoccupant pas beaucoup de la petite fille que j'étais. Mais il était très présent dans la famille. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai appris ce qu'était ce garçon de 14 ans dans son texte, mais je me suis dit, mais dans le fond, je le connais bien, cet homme. Je pense que ma curiosité des hommes, du monde, vient de mon père. Parce que on voit bien, quand il écrit son texte, qu'il n'est pas happé par la barbarie. Ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour rester en vie. Comment faire pour rester en vie encore quelques minutes. Et c'est lui, c'est un garçon très débrouillard. Il n'est pas happé par le persécuteur. Il cherche des voies.
Oui, c'est comment rester en vie. Oui. Et c'est ça qu'il représente. C'est tous les moyens qu'il est capable de mettre en œuvre pour rester en vie. Et c'est la seule chose qu'il peut représenter dans son récit, parce que le reste est irreprésentable.
Oui, oui, c'est ça.
Absolument irreprésentable.
Ah, c'est très juste ce que vous dites, oui.
Alors, justement, dans votre rencontre avec les autres et avec la psychanalyse, il faut venir sur le fait que entre un psychanalyste et l'héritier d'un génocide, il y a justement une béance infranchissable. Parce que la réalité est irreprésentable. Infranchissable tant les traces de l'héritage sont intraduisibles. Alors il faut néanmoins se risquer à traduire, de toute façon. Il faut s'y coller. Et comme le dit Jean-François Chiantaretto, on n'aura qu'une mauvaise traduction. Mais la mauvaise traduction qui en résulte, qui résulte de cette première rencontre, est un préalable à accepter. Voilà, il faut accepter ce caractère incomplet, bancal, insatisfaisant, parce que c'est la seule possibilité d'hébergement psychique.
Ah oui, ça, je dois dire que lorsque Jean-François Quintoretto a émis cette théorie, ça m'a époustouflée parce que je me suis dit, mais quelle intelligence, parce que c'est ça. C'est-à-dire que l'autre, celui dont on pense qu'il ne connaît pas la persécution, ou il ne connaît pas les horreurs, et heureusement qu'on pense ça, c'est-à-dire heureusement qu'on est entouré de gens dont on pense qu'ils ne connaissent pas ça. Parce que je vous assure qu'être avec que des Arméniens qui ont connu ça, pour moi c'est catastrophique. J'ai besoin d'imaginer que l'autre n'a pas connu ça. Mais alors, à partir du moment où on est en dialogue avec celui qu'on fantasme comme étranger à ce monde, on fait des efforts, puis on voit bien qu'il ne comprend pas très bien quoi. Mais finalement, il se produit un travail relationnel, un travail libidinal, qui fait que finalement, on voit qu'il comprend un peu. C'est-à-dire qu'il comprend avec d'autres éléments qu'il a à l'appui. Peut-être que l'autre, il a rencontré d'autres malheurs dans sa vie. Ou d'autres bonheurs. Parce que je dois vous dire aussi que, puisqu'on parle ici du traumatique, il y avait chez mes parents des moments où ils étaient très heureux, c'est-à-dire des moments où ils faisaient la fête, ils se réjouissaient avec des gens comme eux. Hein. Mais j'aurais envie de dire, c'est comme ça que je l'ai vécu, et que je l'ai vécu dans l'après-coup du travail analytique. Je trouvais que quand ils se réjouissaient, c'était toujours avec un arrière-fond, qu'on trouve par exemple bien écrit dans le travail de Pierre Pachet, mais c'est qu'on est encore vivant. C'est-à-dire que c'est une réjouissance, non pas, je dirais, de la vie, mais du fait que, malgré tout, on est vivant.
C'est ça. On est vivant malgré ce qui vient d'ailleurs sous la plume de Yolanda Campbell.
Oui.
On est vivant malgré la transmission radioactive.
Ah oui.
C'est cette métaphore qu'elle emploie, hein, pour signifier la présence invisible, silencieuse, qui ronge de l'intérieur les survivants, qui sont privés de mots. Et pour accéder à une traduction forcément mauvaise, comme on vient de l'évoquer, parce que inapte à traduire l'insaisissable des ondes de l'effroi, faut-il que l'analyste ait la capacité de se laisser un tant soit peu contaminer ?
Oui, oui, oui. Oui, et j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut imaginer que l'autre ne connaisse pas ça. Moi, à l'école, ce que j'aimais, c'était les comptines, les fables de La Fontaine, les jolies choses de la vie. Il faut penser que ces choses-là existent, sinon on ne peut pas se reconstruire. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, et c'est quelque chose que mes parents ont dû me transmettre, je n'ai jamais été rebelle. C'est-à-dire que quand l'autre me déplaît parce que je trouve qu'il ne comprend rien, bon, j'attends, je cherche un autre qui comprendrait quelque chose. Mais je ne suis pas une opposante a priori. Je dis ça parce que finalement, c'est les rapports de séduction entre soi et l'autre, c'est-à-dire des rapports libidinaux, qui permettent que ce qui triomphe, ce soit la pulsion de vie.
Tout à fait. Et que, avec ce courant libidinal, transférentiel,
oui,
le préconscient puisse accueillir petit à petit des éléments de ces traces qui étaient restées innommables. Hein. Et alors, justement, puisqu'on parle de ça, il y a un sous-titre dans votre livre qui s'appelle « Ouvrez-moi les chemins d'Arménie ». Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie.
Oui, c'est du Corneille.
Ça voilà. Suffit, oui. Il y a ce sous-titre énigmatique que je vous propose de commenter parce que je pense qu'il est très intéressant. Vous dites, enfin le sous-titre, c'est un génocide au désert de l'inconscient.
Oui, alors, pourquoi j'ai eu... Il m'est arrivé comme ça spontanément ce sous-titre. Je pense que ce sous-titre est en rapport avec ce que vous appelez la condensation. C'est-à-dire que dans l'histoire des survivants arméniens, il y a partout le désert, parce que ils sont déportés de telle ou telle région de l'Empire ottoman. C'était à partir de Bursa. Bursa est une ville un petit peu au sud de Constantinople. Et ils sont déportés vers le désert. Et ils meurent en général dans le désert. Donc le désert est un signifiant qui est le lieu de sépulture, enfin le lieu de mise à mort des Arméniens qui sont morts. Et pourquoi j'ai écrit au désert de l'inconscient ? En somme, pour subvertir la pensée psychanalytique. Parce que on parle d'inconscient, d'accord, c'est bien joli. Mais il y a les déserts de l'inconscient. Et ma formulation, en fait, est absurde. Elle est une condensation, comme dans un rêve, quoi. On a un inconscient, d'accord, mais le désert l'habite quelque part. C'est votre question, d'ailleurs, qui me permet de préciser.
Merci. Pour transiter d'une langue à l'autre, faire passer le sens d'un phonème à un autre phonème totalement différent, hein, mesurer leur recouvrement incertain, leur adéquation toujours questionnable, transférer le sens d'une phrase dans un contexte grammatical totalement différent, n'y a-t-il pas dans ce travail d'artiste de la traduction la création et le maintien d'un espace transitionnel. Un espace transitionnel qui permet la circulation du sens envers et contre les effets du génocide.
Ah oui. Oui, alors, je dois dire que dans un travail de traduction au sens littéral, et disons que je ne suis pas d'accord avec tel choix. Lorsque un des collègues, par exemple, comprend très bien pourquoi je ne suis pas d'accord avec tel choix, à ce moment-là, il y a une sorte de communion de pensée qui donne un grand plaisir. Et donc, c'est grâce à ça que le travail de traduction est un travail porteur d'humanité. Parce que, en fait, c'est pas traduisible. En fait, Freud, c'est pas traduisible. Mais n'empêche que, il y a un espace transitionnel où quelque chose se produit qu'on arrive quand même à le traduire.
Ouais. Et d'ailleurs, puisque vous dites c'est pas traduisible, vous l'exposez magistralement dans ce livre que vous avez consacré à l'écriture de Freud. Je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu pour préparer notre entretien d'aujourd'hui. Et je regrette de ne pas l'avoir lu, parce que ça m'a séduit, ça m'a terriblement intéressé. Voilà, donc merci. Mais justement, cet art de la traduction, Janine, vous l'avez pratiqué 30 ans durant, en tant que membre de l'équipe de traduction des œuvres complètes de Freud, sous la direction de Jean Laplanche. Vous étiez chargé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'harmoniser la traduction. Et vous dites que ce fut votre bonheur durant toute cette époque.
Oui, pendant 30 ans, oui.
Oui,
ben oui, parce que j'avais donc 3 séances de traduction par semaine. La première, c'était celle avec Bourguignon et Cottet, où on retraduisait les œuvres qui avaient déjà été préalablement traduites. Et 2 séances avec le comité éditorial sous la direction de Laplanche, où on passait au peigne fin toutes les nouvelles traductions. Et c'était un vrai plaisir parce que j'étais avec des penseurs qui pensaient sur le texte d'un éminent penseur. Alors, quel plaisir pour une fille qui n'avait pas pu partager ce plaisir avec son père. En fait, j'ai fait un transfert paternel sur tous ces hommes qui étaient des penseurs autour d'un penseur. Évidemment, ce plaisir que j'avais avec à travailler avec des penseurs, c'est que en fait, ils pensaient autour du texte d'un penseur lui-même qui n'était pas sans rapport avec ma propre histoire. Freud était d'origine juive et germanique. Et Didier Anzieux dit très bien dans un de ses articles que la culture de référence de Freud était gréco-latine, mais que sa culture d'appartenance était juive, hébraïque et allemande. Et je pense que c'est cette appartenance multiple à plusieurs cultures, c'est-à-dire à plusieurs modes de pensée, c'est de là qu'est née la psychanalyse.
À propos de la traduction, vous citez Antoine Berman, qui dit, j'ai un peu réduit la citation, mais elle est dans un de vos livres, « Une traduction a le pouvoir de révéler ce qui, dans une œuvre, est origine. Cela indique qu'elle entretient avec elle un certain rapport de violence. Parce que là où il y a révélation de quelque chose de caché, il y a violence. Alors, dans ce rapport entre traduction et violence, est-ce que l'espace transitionnel de la traduction rendrait possible de constituer une sorte d'économie pulsionnelle dans laquelle la violence serait maîtrisable par petites doses et entrerait au service du tiers ?
Ah oui, oui. Alors, vous savez, par exemple, la fameuse phrase là, « Wo es war, soll ich werden », c'est-à-dire la manière dont Freud utilise l'allemand pour exprimer une pensée qui n'a pu être rendue en français, là où était le « ça »
advient
le « moi ». Or, on ne peut s'en sortir que par là. Mais en fait, c'est totalement faux. Parce que « wo es war », c'est le début de tous les contes. Il était une fois un prince et une princesse. Es war einmal ein Prinz und eine Prinzessin. C'est-à-dire, es war, c'est, c'était. C'était. Et le se de c'était n'est pas un se. C'est-à-dire que Freud a cette façon extraordinaire de dire que il y a quelque que le moi advient de quelque chose d'autre, ce quelque chose qu'on dit le ça, alors que dans la langue ça fonctionne pas comme ça. Alors devant ce plaisir qu'on a à lire Freud, qui c'est ce plaisir qu'on peut pas restituer. La traduction aplatit complètement, elle ne peut qu'aplatir. Je pense que.
Mais si la traduction révèle quelque chose.
C'est ça la violence. Voilà.
C'est ça la violence.
Oui, c'est ça. Voilà.
Mais c'est une violence maîtrisable avec laquelle il faut s'habituer à vivre.
Je pense qu'en fait, c'est ce que le fait le psychanalyste dans son travail. C'est pas dans les mots que ça fonctionne, mais un bon analyste a en face de lui un analysant, ou « Wo es war, soll ich werden ?» Alors que tous les analystes ne parviennent pas à ça.
Revenons sur cette question de la traduction et de la violence. Puisque vous citiez Berman, qui disait que lorsque la traduction révèle quelque chose qui était caché, elle entretient avec le texte un certain rapport de violence. Violence que l'on peut trouver également dans l'analyse et qui a été théorisée au niveau de l'interprétation par Pierre Aulagnier. Violence de l'interprétation. Cette violence de la traduction, cette violence de la mauvaise traduction, comme le disait Cantareto, dont on a besoin, on ne peut pas y couper. Alors, cette violence, comment vous l'avez vécue dans ces différents registres de la traduction, de la mauvaise traduction et de l'interprétation ?
Je trouve intéressant que vous mettiez en parallèle la violence de la mauvaise traduction et la violence de la bonne traduction. C'est que dans la mauvaise traduction, la violence, elle est endommageante. Et il faut travailler avec cet endommagement. Tandis que dans la bonne traduction, c'est une violence lorsque l'interprétation est bonne, c'est-à-dire qu'elle fait violence parce qu'elle traduit quelque chose qui n'a jamais été traduit auparavant. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'un seul coup que l'autre a bien compris Et c'est très violent parce que elle met en, elle fait comprendre la souffrance qu'on a vécue pendant tant d'années à être mal comprise.
Oui. Et cette violence, elle relance la résistance. Il va falloir encore pas mal de temps pour amenuiser la résistance et que ce qui a été révélé puisse être vraiment entendu.
Oui. Oui, mais n'empêche qu'au moment où ça a été entendu une bonne fois, ça fait bouger quelque chose. Ça crée un espace nouveau. Et c'est la création de cet espace nouveau qui fait que... C'est là-dessus que... C'est là-dedans que réside le bienfait du travail analytique. Pas du tout par le fait que... le trauma initial disparaît. C'est pas ça le problème. Ce qui disparaît, c'est que on sait qu'on peut trouver de bonnes traductions dans le monde. C'est-à-dire, les liens peuvent exister. Ça existe, voilà. Que ça existe.
Janine, à la toute fin de l'entretien réalisé par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, dans la série des entretiens patrimoniaux, la personne qui vous interviewe demande si vous avez un message à adresser aux nouvelles générations. Et après un instant de réflexion, il vous vient de célébrer l'apprentissage. Et vous dites « apprendre », toujours apprendre, dites-vous. Mais permettez-moi de compléter votre message en traduisant ce que vous faisiez en cet instant même et que vous omettiez de dire. Partagez, parce que c'est ce que vous faisiez. Toujours apprendre pour partager,
oui.
Comme vous veniez de le faire et comme vous le faites encore avec nous aujourd'hui. Partager pour transmettre. Alors, j'ai une question. Apprendre, oui. Partager, oui. Transmettre. Partager, apprendre, partager, transmettre. Serait-ce votre devise?
Oui, d'ailleurs, quand cette historienne, Manon Pignot, m'a posé cette question à la fin de l'entretien. Quel message voulez-vous transmettre aux jeunes? Alors, j'étais pas à l'aise, j'étais abasourdie, parce que j'ai même dit, mais c'est embêtant, parce qu'il faudrait que je dise « il faut ». Mais j'ai dit, il faut apprendre, il faut aimer apprendre.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du complément ? Partager, transmettre.
Mais oui, c'est-à-dire que quand on apprend, on apprend la culture et l'autre, on apprend l'autre. Et à ce moment-là, quand on apprend l'autre et que l'autre vous apprend, il y a ce lien qui... Ça crée un lien. Le lien ne peut se créer que par l'apprentissage mutuel. Et je ne pouvais pas expliquer ça. Mais vous m'aidez à le dire, oui.
Oui. Et vous nous avez transmis, comme je le disais en introduction, quelque chose d'essentiel que j'ai résumé de façon un peu comme ça lapidaire, qui était que les survivants ne sont pas des vivants comme les autres. Et je crois que vous avez réussi, par vos travaux, par toutes vos communications, à ouvrir véritablement la pensée sur cette singularité. Parce que si on passe à côté de cette singularité, je pense qu'on ne peut pas aider les survivants.
Oui, c'est-à-dire que, vous savez, au début de mon évolution, je me suis sentie une fille d'émigrée. Et d'ailleurs, cette petite fille d'émigrée, elle est toujours présente en moi. Mais au bout d'un certain temps, j'ai compris que cette fille d'émigrée, elle contient une grande richesse et que les survivants sont des gens très riches. Et c'est en fait ce que produit le travail analytique. C'est-à-dire que ces bribes de choses qu'on a en soi parce qu'elles vous ont été transmises, c'est des bribes, c'est comme des pépites d'or.
Oui. Ou des graines dans un désert.
Oui, c'est ça.
Ça peut fleurir quand même.
Ah, c'est ça, oui, c'est
voilà.
Ça.
Merci, Janine Altounian. Merci infiniment.
Ah ben écoutez, alors c'est moi qui vous remercie, alors vraiment.